Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Il est un mouvement qui se développe aujourd'hui dans la société française, le wokisme, comprendre l'éveil, l'attention farouche, et il faut le dire, qui peut devenir un peu folle, portée à toutes les discriminations et les déterminismes, dont le fait d'être femme. Eh bien, non sans humour, voire provocation, l'on a envie de dire à ces féministes d'un nouveau genre, lisez la Bible, ou tout le moins l'Ancien Testament, car des femmes séduisantes, fortes et libres, vous en trouverez plus que vous ne croyez. Portrait de femme dans la Bible, c'est le thème de l'émission Vivante Église de ce matin. Autour du plateau, ça tombe bien, on l'a pas fait exprès, mais sinon on se serait senti pris en défaut. Deux femmes, Françoise Baniris-Merlet, vous êtes professeure honoraire à l'école des Beaux-Arts de Toulouse et directrice honoraire de l'Institut d'art religieux de l'Institut catholique de Toulouse. Bonjour.
Bonjour.
Parlez bien près du micro. Catherine de Montpézat, vous êtes religieuse de la congrégation Notre-Dame du Calvaire. Vous êtes diplômée de l'Institut de formation d'art et de catéchèse IFAC. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir fait donc un détour par nos studios, d'avoir pris le temps de venir nous parler de la Bible. Alors, c'est un petit défi que l'on s'est lancé ce matin, puisqu'on va parler de femmes dans l'Ancien Testament. Déjà, c'est sûr qu'à 9h et quelques du matin, c'est ambitieux, même si nos auditeurs sont habitués à des émissions ambitieuses. Et puis, on va partir de tableaux de maîtres, de maîtres de la peinture. Et on va essayer de vous décrire ces tableaux. Il faut dire aussi que cette émission a été motivée par une série de conférences que vous donnez toutes les deux au long de cette année, intitulée « Femmes dans la Bible et dans l'art, contemplation, réflexion et partage ». On y reviendra, on donnera toutes les informations pratiques. Françoise Baniris-Merlet, je vais commencer avec vous. J'ai vu un petit sourire léger, hein, parce que vous êtes une femme diplomate et fine, léger à mon introduction. Est-ce à dire que cette série, vous l'avez aussi pensée avec quelque impertinence ?
Il est indispensable d'être impertinent quand on a fait une carrière à l'école des Beaux-Arts. Je crois que ça fait partie de sa nature profonde, longuement cultivée. Je pense que les réflexes qui nous lient à ces femmes, à toutes les femmes, sont des réflexes identitaires et des réflexes de solidarité. Mais quelquefois, on se trouve largement dépassé par la figure de ces femmes qui ont réalisé des actes tout à fait louable pour défendre leur patrie, ce que je n'ai pas fait, en grâce à leur vertu ou également leur beauté, leur charme, qui effectivement est parfois mis à rude épreuve. Et je crois que nous ne sommes pas tout à fait toujours dans le contexte actuel.
Catherine de Montpézat, les femmes dans la Bible. Alors, on avait fait une série d'émissions déjà de l'année dernière parce que c'était le thème, figurez-vous, annuel des conférences bibliques de la faculté de théologie à l'Institut catholique de Toulouse. Donc, on avait pris le temps déjà de découvrir des portraits de femmes et de voir, en fait, dans le fond, contrairement probablement à bien des idées reçues, que souvent Dieu passe par les femmes dans l'histoire sainte pour parler aux hommes, en fait. Ai-je bien compris ?
Oui, oui, oui. Même si, de premier abord, c'est la masculinité qui l'emporte, elles sont derrière. Mais quand on voit leurs exploits et leur personnalité, elles savent mener, je dirais, les hommes et s'affirmer dans ce qu'elles ont de fort, de fondamental, à la fois leur féminité avec leur faiblesse et leur force. Et cette imprégnation d'agir pour le peuple, au sein du peuple, et avec une transcendance, comme une vocation qui vient de Dieu, même si elles ne l'affirment pas en soi directement, mais elles sont mobilisées par cette orientation d'ouvrir un chemin et de défendre un peuple.
Alors, vous me faisiez aussi remarquer, en préparant l'émission, que Écriture et Torah sont des mots féminins, et puis il paraît qu'il y a une expression rabbinique qui dit « la Torah est enceinte ».
Oui,
pouvez-vous nous expliquer ça?
Dans la tradition rabbinique, oui, on dit justement que la Torah est enceinte, elle engendre toujours des fils au peuple, des fils spirituels. Et ça passe évidemment par les femmes. Ces enfants sont vraiment incarnés, charnels. Donc la Torah est toujours quelque chose de très vivant, très pittoresque et très animé, très concret. Et je crois que ça fait allusion à la Torah est enceinte. Et, ou encore on dit la Torah est une matrice qui enfante ses lecteurs à la lumière de Dieu. Bon, ça c'est beau comme ça dit beaucoup de ce qu'est l'Ancien Testament. Et c'est pour ça que c'est assez... on voit des événements qui sont très vivants, très... des situations qui nous rejoignent dans le quotidien.
Alors c'est ce qu'on va essayer, on va essayer de faire la preuve par l'exemple, parce que c'est toujours un défi, enfin en tout cas ça fait partie des défis d'une radio comme celle-là, d'essayer de montrer que la foi n'est pas juste une chose du passé et qu'on peut parcourir les écritures en y trouvant des résonances profondes avec nos vies. On va se lancer, donc il faut dire que il y a une série de conférences cette année, on n'a choisi que quelques tableaux. Le premier que l'on a choisi était pour la conférence introductive, c'était le 23 octobre dernier. C'est un tableau de Rembrandt avec Toby, avec un T, et Anna, Françoise Baniris-Merlet. Puisque vous êtes une ancienne prof d'histoire de l'art, je vais vous laisser le décrire et puis je compléterai, je pense que vous ferez ça mieux que moi.
Le décrire. Lorsque je l'ai vu pour la première fois au musée d'Amsterdam, j'ai été déçue tout d'abord, au Rijksmuseum, j'ai été déçue tout d'abord par la taille de ce tableau, 40 cm sur 30. On m'avait parlé d'un tableau qui faisait l'honneur de reproductions très importantes dans les livres, et je m'attendais à un grand tableau. Et ce que j'ai constaté, c'est que ce tableau n'avait pas perdu sa force, malgré sa petite taille. Pourquoi ? Il représente une scène de dispute conjugale. Alors, que celui qui n'a jamais vécu une dispute conjugale, bon, bref. Et donc, on y voit une dame âgée qui porte sous son bras un chevreau vivant, et à gauche, son mari, qui est en train de l'implorer de ne pas se mettre en colère, de se calmer, et de prier surtout Dieu de la pardonner, parce qu'il croit que son épouse a volé ce chevreau. Voilà. En fait, Toby est aveugle. Il a été rendu aveugle par une histoire antérieure et donc ses yeux ont perdu la vue de façon par un élément extérieur et donc il est obligé, il ne peut pas subvenir à ses besoins et sa femme fait du tissage et donc sa femme gagne sa vie pour le couple. Et lorsque elle rentre une fois, son patron a été très satisfait de son travail et lui a donné un chevreau. Or Toby croit qu'elle l'a volé. Et voilà le drame, c'est qu'elle invective son mari qui la gronde parce qu'il l'a soupçonné de ce vol.
Alors ça c'est pour l'histoire, on va dire. Et oui. Après, peut-être, Sœur Catherine de Montpazat y reviendra. Si on doit le décrire un tout petit peu quant au style, alors Rembrandt, on imagine quand même qu'un certain nombre d'auditeurs ont en tête, on peut dire que c'est une atmosphère intimiste, hein. Y a un clair-obscur assez marqué. On voit beaucoup de détails, on est vraiment dans l'intérieur, il y a un feu, il y a un petit chien, une fenêtre sur la gauche, une lumière très forte. Souvent la lumière est importante hein, dans la peinture de la Renaissance, enfin dans la peinture en général, mais dans la peinture de la Renaissance flamande. Qu'est-ce que vous pourriez dire par exemple sur ce sujet ?
Je pourrais dire que la peinture éclaire essentiellement les visages de Toby et d'Anna. Le visage de Toby présente des yeux fermés, ainsi que Sœur Catherine peut-être va nous l'expliquer. Le visage d'Anna, elle, lui, présente des yeux extrêmement grands ouverts et elle fusille son mari du regard, si l'on peut dire. L'atmosphère est intime puisque nous sommes dans un intérieur refermé sur lui-même, sombre, la lumière effectivement venant de gauche. Et il y a un petit feu, il y a un chien qui est le symbole de la fidélité quand même des époux, une date. Mais surtout, ce que je voudrais montrer, c'est que cette scène est inspirée de gravures. Rembrandt, d'abord, était quelqu'un qui n'était pas normalement attiré ou très compétent théoriquement en art, en scène biblique de l'Ancien Testament, puisqu'il était protestant et ce n'était pas tellement la culture qui lui était donnée en 1626. Donc il connaît ce thème qu'il va traiter un grand nombre de fois. Et il va le traiter à partir de 1626, il a 20 ans, Il a 20 ans. Et à cette époque, comme tous les jeunes de son âge, il s'inspire essentiellement de gravures. Donc la couleur est annexe. C'est la lumière qui est importante, puisque la gravure fonctionne sur l'opposition du noir et blanc. Et la couleur est quelque chose de secondaire. Et c'est après que Rembrandt va donner beaucoup de générosité à ses couleurs et à sa pâte. Pour l'instant, nous avons une gravure, une scène très sèche de dispute entre deux époux, avec donc peut-être un style qui est propre à tous les étudiants d'art à leur début, c'est-à-dire qu'on copie des gravures et après on enrichit ensuite sa pâte en utilisant la peinture.
Alors Rembrandt, donc, on rappelle 1606-1669, Sœur Catherine de Montpezat. Alors l'histoire de Toby, en général c'est Toby et Sarah que l'on retient, donc le fils de Toby qui est envoyé pour... voilà, qui trouve une épouse, et puis il y a un ange dans cette histoire. Là, on s'arrête surtout donc sur la figure de Anna, l'épouse du père. Cette femme, qu'est-ce qu'on en sait dans ce passage de l'écriture, avant d'essayer de voir ce qu'elle peut nous dire?
Alors, on pourrait penser qu'Anna est une femme soumise. Ça se passe dans un contexte domestique, familial. Et qu'elle...
Qu'est-ce qu'elle lui dit déjà à son mari?
À son mari, elle réplique. Hein, elle réplique. Où sont donc tes bonnes œuvres? Où sont tes aumônes? Tout le monde sait à quoi cela va te mener.
Alors, il faut peut-être redire, pardon de vous couper trop, mais que Toby est un homme extrêmement fidèle.
Oui, pieux.
Qui prend des risques importants.
Un juste, un pieux, et qui a notoriété dans le peuple, et qui a fait ses preuves de fidélité dans un contexte
d'occupation.
De persécution, puisque ça se passe à Ninive. Le peuple est déporté. Et comment maintenir la fidélité à la loi alors qu'il n'y a plus de temple, qu'il n'y a plus de Torah, qu'il n'y a plus de prêtres? C'est par la vie familiale que va se perpétuer cet attachement à Moïse, aux anciens. Donc la vie familiale est porteuse de cet élément spirituel et de fidélité à la Torah.
Donc il enterre les morts c'est interdit.
Oui, c'est interdit. Il a d'ailleurs été déporté déjà en Médie. Pour cela, il revient quand le roi change et il mène une vie vraiment de bonnes œuvres, je dirais, les œuvres de miséricorde. Il enterre les morts alors que c'est interdit et qu'on risque sa vie. Il prie, il enseigne à son fils les préceptes de la loi, à Tobias, donc, et sa femme est peut-être en second. Voilà. Et voilà qu'à partir de l'événement dont tu as parlé
Il s'engueule,
Françoise,
donc, et sa femme, on va dire, l'invective, alors on se dit...
Et là, elle ne se fait pas toute petite. Toby l'accuse d'avoir volé. Elle se défend, c'est pas vrai. C'est un don qui m'a été octroyé après mon travail. Et à la limite, elle réplique et elle réplique en plus...
Où sont tes aumônes? Où sont-elles tes bonnes œuvres? Tout ce qui t'arrive est bien clair.
Voilà.
On ne peut pas dire là que c'est la femme religieuse exemplaire, si
non,
je puis me permettre.
Non, mais très bien. Moi, je dirais, elle met de l'humanité. Elle n'est pas insipide, incolore et sans saveur. Ce n'est pas une foi tombée du ciel comme ça. Hein. Et beaucoup de femmes, aujourd'hui aussi, peut-être devant un malheur ou une injustice, je dirais, elles tapent du poing sur la table. Peut-être plus que les hommes qui sont plus... je dirais la femme part avec ses entrailles. Et là, elle se sent attaquée dans son intégrité, dans son être de femme. Et elle l'envoie balader. Elle lui dit, tes bonnes œuvres et tes aumônes, fous-nous la paix avec ça. Quoi.
Alors, quelle leçon, quelque part, on peut en tirer, très lointaine, de cette figure d'Anna? Et si vous deviez faire un peu des allers-retours avec votre expérience personnelle, ça serait quoi?
Je pense que moi, en tant qu'infirmière, je me rappelle avoir vu une femme comme ça qui a perdu son fils après une opération. Cette femme m'a demandé où est la chapelle. Moi, j'étais... je suis descendue avec elle à la petite chapelle de là où on était. Eh bien, cette femme s'est mise devant le Saint-Sacrement alors qu'elle n'est pas, je dirais, c'est pas une bigote. Hein. Et elle a invectivé Dieu... Mais vous n'avez pas le droit. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est ma vie que vous me prenez. C'est pas possible. Enfin, pendant une demi-heure, mais c'était pas de la piété lisse et tranquille. C'était vraiment un combat, un corps à corps avec Dieu. Moi, j'ai laissé faire. J'avais les larmes aux yeux parce que je trouvais ça très beau en même temps d'engagement viscéral. Eh bien, figurez-vous, quand elle est remontée, elle s'est remise dans la chambre, elle s'est mise à tricoter calmement. Moi, j'étais témoin de ça, c'est tout. Et l'infirmière du bloc vient, me dit, on ne sait pas comment ça se fait, mais l'hémorragie de son enfant, elle, c'est terminé. Elle l'a perdue un peu plus tard, mais sur le coup, si vous voulez, l'hémorragie de l'enfant qu'on n'arrivait pas à juguler, c'est terminé. Et elle était tranquille, elle avait parlé à Dieu, à sa façon.
Allez, on va faire une première pause musicale. Cette série, donc, on peut vous retrouver plus longuement pour parcourir les écritures avec vous, les femmes dans la Bible et dans l'art. C'est un samedi par mois au long de cette année. C'est juste à côté de la radio, la communauté Notre-Dame du Calvaire. Et le prochain rendez-vous est le 27 novembre. On parlera de la figure de Judith et on en parlera tout de suite après cette pause musicale. On peut dire, chers auditeurs, que voilà, si vous voulez avoir une radio chrétienne qui... Je vous mets au défi de trouver en Occitanie une autre radio qui vous aide le matin à 9h20 de rentrer dans la réalité vivante des Écritures. Et Dieu sait si nous, chrétiens, nous croyons que c'est un grand trésor. Voilà, c'est aussi peut-être parce qu'il y a des radios comme ça qu'aujourd'hui, cette histoire sainte continue. Appelez-nous, on a besoin de vous. Cette radio, c'est la vôtre. Elle ne se fait pas sans votre générosité. Un seul numéro de téléphone, 05 62 48 63 00. 05 62 48 63 00.
Emmanuel Pella.
Portrait de femme dans la Bible, c'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église de ce matin. Avec nous, deux femmes, Françoise Bagnéris Merlet, qui est professeure honoraire de l'École des Beaux-Arts de Toulouse et directrice honoraire de l'Institut d'art religieuse de l'Institut catholique de Toulouse, et Catherine de Montpézat, religieuse de la congrégation Notre-Dame du Calvaire, qui est une voisine de la radio, et diplômée de l'Institut de formation d'art et de catéchèse, l'IFAC. On parcourt donc les Écritures avec vous pour découvrir quelques figures de femmes dans l'Ancien Testament. On va maintenant s'attaquer, j'ai envie de dire, à un morceau ou en tout cas à une femme surprenante. C'est donc Judith. Le tableau, c'est un tableau de Botticelli. Et Judith est donc une femme, vous allez développer, mais qui a obtenu la tête de son ennemi au sens propre. Françoise Bagnéris-Merlé, si vous deviez nous décrire ce tableau de Botticelli, à quoi ressemble-t-il ?
Alors nous y voyons une de ces charmantes jeunes femmes dont nous avons l'habitude. Ce sont ces jeunes femmes qu'on voit sur des boîtes de bonbons, sur des calendriers, qui ont une image qui a été largement diffusée. Jeunes femmes blondes, au teint transparent, aux grands yeux clairs, aux cheveux blonds, donc souvent mêlés de perles, et avec des voiles extrêmement fins posés sur ses cheveux. Et ces femmes font toujours penser à la Vierge, car elles nous renvoient à une image idéale, céleste, d'une femme désincarnée. Or là, dans ce tableau, vous imaginez ces mêmes visages que vous avez certainement vus, et sur la tête, sur le corps d'une jeune femme qui marche, d'une allure douce, calme, avec un air rêveur, et elle est suivie par une servante qui porte sur son épaule une corbeille, d'où émerge la tête d'un soldat particulièrement barbu et tête sanguinolente. Alors c'est un peu surprenant. Cette cohabitation des deux femmes est un peu surprenante, surtout que Judith, la jeune femme en question, tient en main un glaive qu'elle montre très précisément, qu'elle tient de sa main droite, et à gauche un rameau d'olivier. Donc, ce tableau est surprenant par ce contexte.
Et parler des soldats au fond aussi. De très loin, on voit une débandade qui commence à planter le décor.
C'est ça. Puisque lorsque cette tête va être exposée au sommet des remparts de sa ville, eh bien, les soldats de ce général, qui s'appelle Holoferne, vont évidemment prendre la fuite. Ils voient que leur armée est défaite. Et à gauche se trouvait un tableau que nous n'allons pas commenter, qui évoquait la mort d'Holoferne. Et c'est aussi deux tout petits tableaux, 31 cm sur 24, peints vers 1470, où l'on voit les deux phases de cette décapitation. La décapitation, puis le transport de la tête à l'intérieur de la ville, et là, évidemment, Judith est celle qui sera consacrée comme héroïne lorsqu'elle aura installé cette tête au sommet des remparts, d'où la déroute des soldats. Ce qui est intéressant, c'est que Botticelli n'est pas un artiste aussi désincarné et aussi spirituel que l'on peut croire. Il est en fait, et c'est toujours intéressant de voir pour qui il a travaillé. Même s'il s'agit ici d'un tableau de dévotion privée, donc d'un diptyque à cause de sa petite taille, Botticelli a été certainement mandaté par la famille Médicis. Il s'agit certainement d'un tableau ou d'un diptyque qui a appartenu à la famille Médicis pour remettre en tête, par l'image, à un membre de cette famille, on ne sait pas exactement de qui il s'agit, que remettre en tête le fait qu'on compte sur les Médicis pour instaurer le régime de la force, le régime de la république, entre guillemets. En fait, c'est une fausse république, puisque les Médicis, qui sont des banquiers et des commerçants, étouffent les libertés républicaines et individuelles. Mais ils assurent la stabilité.
Voilà, en tout cas, ça peut être la vertu de force qui est représentée dans ce tableau. Aussi surprenant que ça puisse paraître de prime abord, vous l'avez bien explicité. Alors Judith, sœur Catherine de Montpezat, on a compris, on va dire, entre les lignes, il y a dans les Écritures donc un livre de Judith. Dans ce livre, un certain Nabucodonosor, roi de toute la terre et roi des Assyriens, envoie son armée donc pour assiéger le peuple juif. Et une femme, Judith, va se lever pour sauver son peuple de manière, on va dire, pour le moins inattendue. Si vous deviez finir de contextualiser et de nous redire l'histoire.
Voilà, l'histoire se passe en Israël, plutôt dans le nord, à Bethulie. C'est une ville qui est un peu sur le sommet et qui est peut-être, c'est un texte qui est à la fois imaginaire, hein, qui est à la fois, on n'a pas l'historicité vraiment, mais c'est un conte populaire pour justement à but religieux, pour former le peuple, enfin dans une situation de détresse, permettre de tenir dans la détresse, de
comme
tenir
l'était, à sa foi. Comme l'était le livre
voilà,
de Tobie.
Un peu, le livre tout de Tobie. À fait. C'est des contes, des pittoresques imagées qui ont un enseignement religieux derrière. Une vraie catéchèse, quoi. Et de Béthulie, cette ville permettrait de conquérir toute la Judée et d'aller jusqu'à Jérusalem. Donc c'est une place stratégique pour combattre tout le territoire.
Alors qui est cette femme Judith qui se lève,
oui,
et qui dit en fait aux anciens qu'elle va trouver la solution?
Ah oui, ben Judith, quand elle sait que les anciens et le peuple sont prêts à capituler après 34 jours de famine et surtout ils n'ont plus d'eau, donc ils vont se rendre à Holoferne. Le général assyrien. Et Judith se dit, c'est pas possible. Et donc, elle va trouver les dignitaires. Et là, dans le livre de Judith, on la voit qui leur fait des reproches de trahison, de manque de foi, de manque d'engagement et de foi en ce Dieu qui peut sauver. Donc, elle leur propose un stratagème. Elle va se rendre auprès d'Holoferne dans le but de lui mentir. Et de faire que, en lui disant qu'elle a un plan pour que Holoferne puisse conquérir la ville facilement.
Elle ne dit pas grand-chose d'ailleurs. Hein. Elle se fait belle, elle,
oui,
part et puis
voilà,
le reste
lui
appartient.
Voilà, elle dit ça à ses dignitaires. Elle y va, avec sa servante, bien sûr, on comprend la place de la servante, parce que pour repartir, il faut bien cacher la tête d'Holoferne dans la besace. Et les femmes de cette époque avaient toujours une servante avec elles. C'était un peu leur dame de compagnie, je dirais. Alors, Judith...
On peut dire que c'est une femme d'une grande beauté, donc c'est une,
oui,
veuve,
oui,
d'une,
oui,
grande,
une
beauté.
Oui, c'est vraiment une
on
femme...
On admirait son étonnante beauté, ai-je noté.
Oui.
La beauté de son visage les stupéfiait tous.
Quoi. Ah oui, donc elle le sait, mais c'est une femme qui reste fidèle à elle-même. Elle n'a pas couché avec Holoferne, elle s'est laissée séduire. Elle l'a laissé se mettre en séduction, rien que parce qu'elle était là. Donc, il lui a proposé un banquet. Elle est allée à ce banquet avec beaucoup d'amabilité et de complaisance. Et
le cœur, excusez-moi, je me permets de citer, oui, l'écriture. Le cœur d'Holoferne et son esprit, le cœur d'Holoferne et son esprit étaient troublés et tout à fait ravis. Il était saisi d'un désir intense de s'unir à elle.
Oui. Mais ça, elle ne s'est pas unie à lui parce qu'il était ivre mort et donc elle en a profité pour s'approcher et avec sa propre épée, son cimeterre, elle lui a pris les cheveux et elle a coupé la tête qu'elle a tout de suite mis dans la besace de sa servante et elles ont pu repartir calmement.
Et ce qui a entraîné la déroute des Assyriens,
oui,
qui au matin ont découvert la tête de leur chef.
Voilà.
Alors on se dit, qu'est-ce qui prend à Sœur Catherine de Montpezat quelle est l'exemplarité en quoi Judith peut nous parler?
Judith, elle a sauvé son peuple là. Hein. C'est une guerrière. Et je trouve que bien souvent dans la vie, dans des situations dramatiques, les femmes savent prendre le pouvoir sans en avoir l'air. Bon, alors peut-être aujourd'hui, on peut faire allusion surtout à l'Afrique, dans des situations de conflit. Les femmes rassemblent le peuple, prennent des initiatives. Les hommes sont d'accord, hein. Mais après, elles disparaissent. Mais elles agissent avec générosité et engagement et risque. Elles prennent des risques. Elles prennent leurs responsabilités et leurs risques. Et je dirais que Judith est un peu l'image
de cette vertu
de force. Oui.
Vous m'aviez donné cette citation d'un certain Michel de Cazenave. Oui. L'appréhension du divin se fait par la dimension féminine. Là, si on file un peu cette citation,
oui,
en quoi Dieu passe par ces femmes et par Judith? Vous deviez finir d'expliciter votre propos.
Bon, Judith, oui, Dieu... Judith, d'abord, est une femme vertueuse. Elle est veuve. Elle reste...
Fidèle à Israël.
Fidèle à Israël. mais elle est insérée au peuple, insérée dans le peuple, et quand il y a une situation de drame où le peuple risque d'être prisonnier, elle s'engage. Elle n'a pas peur elle quitte sa position de femme veuve discrète qui passe derrière et elle va au combat avec toute sa force et toute sa foi.
Françoise Bagnéris, Merlet, vous voulez rajouter quelque chose ? Le divin, en l'occurrence, c'est la vertu de force. Là, ça passe par une femme.
C'est... Il passe par la beauté, la séduction. La beauté qui peut être très dangereuse, et je crois qu'il faudrait se souvenir aussi du grand thème de Mars et Vénus dans l'Antiquité. Mars et Vénus qui ont toujours été mises en parallèle et l'un annonçant l'autre. Voilà, c'est la déesse de l'amour et le dieu de la guerre.
On accueille Thibaut Dautuil, qui lui est, on va dire, est en guerre, si je puis dire, quoique cette expression aujourd'hui est fort galvaudée, n'est-ce pas ? Puisque c'est notre radio don et que le compte n'y est pas, mon cher Thibaut.
Oui, le compte n'y est pas,
il est temps que les femmes se lèvent.
Il est temps que les femmes se lèvent.
Et sortent leur chéquier.
Et en tout cas, sœur Catherine, en vous écoutant à l'instant, je comprends un peu mieux pourquoi le prénom Holoferne n'est pas très donné chez les garçons aujourd'hui. Hein.
C'est un risque.
C'est un gros risque, et effectivement, voilà. Merci en tout cas d'être là. Vous venez en voisine,
vous êtes
sœur du Calvaire et votre couvent est à côté. Et à Toulouse, on a la chance d'avoir beaucoup de couvents de religieuses. Et souvent, vous venez en plateau et vous savez nous secouer, vous savez nous remuer comme vous faites aujourd'hui. Ça nous fait beaucoup de bien. Ce n'est pas que des sourires, c'est profond, c'est magnifique ce que vous faites aujourd'hui dans cette émission. Donc un grand merci. Et je suis certain que parmi les auditeurs, il y en a beaucoup qui vous écoutent et qui vous apprécient et qui apprécient cette émission. Donc n'hésitez pas à appeler maintenant. Il y a une petite pause musicale. Je pense que c'est le moment pour vous. On peut faire ensemble, si vous voulez, le geste de décrocher ce téléphone et de composer ce numéro, puisque l'émission va être en pause, là, comme ça, pendant 3 minutes. Donc allez-y, prenez votre téléphone et appelez le 05 62 48 63 00. Voilà, et il y a des hommes qui vous attendent, qui sont là au standard et qui seront heureux d'échanger avec vous sur cette figure de la femme et vous remercier, ma sœur, de venir parmi nous aujourd'hui.
Présence à Moissac, 93.3.
Vivante Église, Emmanuel Pella.
Portrait de femme dans la Bible, c'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église de ce matin. Pour nous accompagner, Françoise Bagnéris-Merlet, professeure honoraire entre autres de l'école des Beaux-Arts de Toulouse, et Catherine de Montpelza, religieuse de la congrégation Notre-Dame du Calvaire. Troisième tableau, c'est un tableau dont vous parlerez au long de cette année de conférences. Donc vous donnez toutes les deux sur le thème « Femmes dans la Bible et dans l'art ». Troisième tableau, on a donc choisi David et Bethsabée. C'est un tableau de Rubens, autre grand peintre et autre époque. Vous m'avez donné, Françoise Bagnéris-Merlet, une citation de Baudelaire que l'on peut donner, qui parle bien de Rubens, qui aidera les auditeurs peut-être à se remettre en tête ce peintre et son univers. Rubens, fleuve d'oubli, jardin de la paresse, oreiller de chair fraîche où l'on ne peut aimer, mais où la vie afflue et s'agite sans cesse comme l'air dans le ciel et la mer dans la mer. Allez-y, décrivez-nous un petit peu ce tableau. C'est donc David qui est tenté par la beauté d'une femme, le roi David, et en l'occurrence cette femme c'est Bethsabée.
Ici nous avons dans un palais magnifique une représentation d'une jeune femme qui est, je dirais, aux trois quarts nue finalement, hein, puisque nous assistons à sa toilette. Elle est entourée par une servante qui la peigne, qui peigne ses longs cheveux blonds, et elle a une autre servante qui est en train de nettoyer les ongles de ses pieds, de polir les ongles de ses pieds. Une fontaine est juste à côté d'elle. Et puis arrive un petit enfant noir, comme c'était la mode. Nous sommes dans les grands ports d'Anvers ou les grands ports flamands, qui lui amène un placet, qui lui amène une lettre, qui est une lettre écrite par l'intermédiaire du roi David, qui lui demande tout simplement de venir la rejoindre. Et elle n'a pas le choix. Et dans ce tableau représente bien, je trouve, le contexte dans lequel nous sommes. Nous sommes à une époque où Rubens est extrêmement gâté par la vie, malgré le décès de sa première épouse. Il a perdu sa première épouse en 1626, et ce tableau est daté à peu près de 10 ans ensuite.
Et mariage qui lui a apporté la prospérité.
Qui lui a apporté la prospérité. Rubens est peut-être un peintre religieux, mais c'est surtout un peintre qui d'abord a un très grand intérêt à viser sa situation sociale, une situation financière confortable, et qui n'hésite pas à faire un mariage qui lui rapporte beaucoup de contacts sociaux, financiers, et à créer un immense atelier qui sera un atelier extrêmement rentable avec de très nombreux collaborateurs. Et si vous avez la chance de visiter la maison de Rubens, qui est aussi son atelier, on voit une maison d'abord destinée à recevoir des hôtes, une maison mondaine dans laquelle on pouvait faire des festins, recevoir des grands salons, avec des collections privées d'objets d'art. Et puis au fond, l'atelier, qui était un atelier muni d'une sorte de mezzanine, à partir de laquelle il surveillait le travail de ses collaborateurs. Donc Rubens ne faisait pas entièrement toutes ses toiles, il dirigeait un immense atelier.
Alors pourquoi vous apportez toutes ces précisions pour le tableau en l'occurrence ?
Parce que là, ce serait vraisemblablement un tableau privé, à usage privé. C'est un grand tableau, c'est un tableau qu'il a réalisé en prenant comme modèle sa seconde épouse.
Une jeune femme en l'occurrence.
Très jeune, très pulpeuse, très charnelle, et qui évoque pour lui le désir entre David et Bethsabée, puisque lui-même éprouve du désir pour cette jeune femme. Il a 58 ans quand il réalise cette toile, et elle en a 17.
On y reviendra peut-être, hein, on va plonger maintenant dans l'histoire. David, le roi David, qui louche, pardon, le mot est très mal choisi, sur Bethsabée, très belle femme qui se baigne, nous dit l'écriture. Le roi David qui était lui-même marié, hein, voilà, et qui profite donc de l'absence de l'époux de Bethsabée, Uri, qui est un soldat, et pas des moindres, hein, ai-je lu, pour commettre cette raide adultère. Si vous deviez nous situer davantage un peu l'histoire, sœur Catherine de Montpeza, qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus ?
Effectivement, Uri est envoyé par son... Pardon. Uri est envoyé au combat et il va essayer de combattre. Il va essayer de. Il assiège la ville de Rabat, qui est aujourd'hui on dirait c'est la capitale. À l'époque c'était la capitale des Ammonites et maintenant ça serait en Jordanie la capitale de la Jordanie, Amman, on dit. Hein. Donc
il est au front, en tout cas il n'est pas là.
Oui, il n'est pas là, parce qu'effectivement c'est le peuple le plus dangereux pour le peuple d'Israël.
Uri qui est un brave, c'est ça hein.
Un brave et qui fait partie de l'armée, qui est mené par Joab, qui est le chef de l'armée. Mais Uri est un brave que David a toujours honoré et puis... pour qui il avait une grande confiance. Donc Uri est au combat. Et voilà qu'il est séduit par Bethsabée qui va se baigner, se laver. Il l'a fait venir, comme l'a dit Françoise, et il lui propose l'adultère. Elle est obligée, effectivement, si elle veut garder la vie sauve. Donc on est dans un contexte où les femmes sont à la merci des hommes. C'est un peu ce qu'on peut dire de ce contexte-là.
Alors, si on avance dans l'histoire, donc on peut dire qu'en l'occurrence, le roi David fait revenir Uri, essaye de faire en sorte qu'il s'unisse à sa femme, mais semble-t-il à l'époque, c'est les soldats lors de la guerre devaient respecter une forme de continence.
Oui.
Donc Uri est fidèle à cette tradition ou cette réalité. Et puis après, donc il y a un prophète. Il faut parler du prophète Nathan.
Oui, effectivement.
Nathan qui de la part de Dieu s'adresse à David et on peut dire assez vertement.
Un intermédiaire, hein, puisque Uri a fait tuer son non.
David a fait tuer
David
Uri.
Tuer Uri au combat en le mettant en première position en disant au chef Joab, vous le laissez devant tout seul afin qu'il soit tué. Donc c'était bien ordonné. Après ça, David peut épouser très légitimement Bethsabée, ce qu'il fait. Et voilà que le prophète Nathan, qui est considéré, lui raconte une histoire un peu comme les paraboles de Jésus. Il y avait un homme riche et un pauvre. L'homme riche avait un grand troupeau, l'homme pauvre avait qu'une seule brebis. Et voilà que l'homme riche ne veut rien prendre de son troupeau pour faire la fête. Il prend la seule brebis de ce pauvre homme. Et ce pauvre homme n'a plus sa seule brebis qu'il chérissait. Qu'est-ce que tu en penses ? Effectivement, c'est très pédagogique parce qu'il demande à David... De donner la morale de ce texte. Il dit, mais cet homme mérite la mort. Et Nathan lui dit, cet homme, c'est toi. Donc, le pauvre David, je dirais, fait une introspection honnête qu'on retrouve dans le psaume 50. Hein, j'ai péché contre toi, mon Dieu. Il fait un retour sur lui-même, on dirait une introspection, qui l'oblige à la repentance. Il pleure, il se met la tête sous un sac, il fait vraiment son mea culpa.
Voilà, ça ne sauvera pas en l'occurrence.
Non, ça ne sauvera pas l'enfant qui va naître, puisqu'il va mourir. Et ayant épousé quand même Bethsabée, plus tard, il aura un autre fils, Salomon,
qui
est le grand roi, le grand sage.
Alors Bethsabée, pourquoi cette figure, on va dire là, pour le coup, on a l'impression de tomber dans les caricatures que l'on imagine de figures de l'Ancien Testament, en tout cas...
Séductrice.
Non, plutôt des femmes, on va dire, qui sont soumises au pouvoir masculin et qui ne peuvent pas faire grand-chose. Alors en quoi cette figure peut être inspirante et qu'est-ce que Dieu dit à travers elle, quelque part ?
Alors effectivement, Bethsabée, elle est un peu obligée de suivre David, mais on voit que c'est une femme qui, avec toute la séduction qu'elle a et toute la... reste à sa place, parce qu'après, on n'en entend plus parler pendant tout le deuxième livre de Samuel, et elle reste dans l'ombre à l'éducation de son fils. ce qui est important, parce qu'elle est vraiment mère. On n'en parle pas, mais elle est mère et elle va donner cette sagesse à Salomon, puisqu'on parle de la sagesse de Salomon, qu'on peut retrouver. Et en même temps, quand le roi David oublie que son fils Salomon, dont Bethsabée à la garde, doit être le roi, puisqu'il avait prévu qu'il y aurait un concurrent, notre roi à sa place, Bethsabée sort de l'ombre, et ça c'est au chapitre, au premier livre des rois, où elle va supplier David, elle se met à ses genoux, et elle, là aussi elle l'invective, tu m'avais promis que notre fils serait le successeur de ton successeur après ta mort. Alors il revient, David revient sur lui-même, là encore, comme la force des intermédiaires, je dirais, pour prendre conscience de sa faute et de sa déviance. D'abord Nathan, qui permet à David de se dire, ben, j'ai péché contre le ciel, contre toi, Seigneur. Et puis deuxièmement, la prière de la supplication de Bethsabée, qui lui dit, non, tu ne dois pas mettre quelqu'un d'autre à la place, c'est ton fils, Salomon, dont j'ai la garde, qui doit être le roi. Elle dit, oui, c'est vrai, tu as raison, j'avais oublié, quoi. Donc, les intermédiaires, peut-être aussi dans nos vies, sont des gens qui sont... on a besoin des autres pour voir clair dans nos vies.
On a besoin des femmes, en l'occurrence, c'est oui. Ce qu'on entend. Allez, peut-être le mot de la fin, Françoise Bagnéris-Merlet. Qu'est-ce que ça vous inspire comme commentaire? Ou est-ce qu'éventuellement vous voulez nous parler de Yael et Sisera? On a un tout petit peu de temps. C'est le tableau que vous avez choisi, et c'est les deux figures bibliques. C'est la figure biblique et le tableau qui est représenté pour la série de conférences que vous donnez avec Sœur Catherine de Montbézin.
Alors je n'évoquerai pas justement le contexte biblique, puisque ce n'est pas ma partie, et Sœur Catherine le fera avec grand bonheur ultérieurement durant ses conférences. Mais j'ai été très frappée par ce personnage de Yael lors d'une visite, d'un voyage, d'un pèlerinage que j'ai effectué à Jérusalem, où on présentait toute une série de figures de femmes au-dessus d'une représentation de la Vierge couchée dans l'église de la Dormition. Et je ne voyais aucun lien entre la figure de la Vierge...
L'église de la Dormition étant le lieu présupposé de l'Assomption de Marie.
Voilà, exactement. Présupposé de l'Assomption. Et je ne voyais aucun lien avec cette femme, cette Yael, qui aurait attiré dans sa tente pour, soi-disant, l'abriter, le général Sisera, qui avait perdu toutes ses armées avaient été défaites, et Yael, très confortablement, lui propose de l'installer dans sa tente, le fait coucher, le fait dormir, le fait manger, le fait boire, et il s'allonge couché sur le côté, et c'était une femme qui n'était pas belle, c'était une femme qui était prophétesse, et cette femme... Déborah l'avait annoncé qu'une femme interviendrait pour sauver le peuple d'Israël. Donc cette femme, Yael, après avoir introduit et installé confortablement ce général en déroute dans sa tente, quand il sombre dans le sommeil, il ne dort pas, suivant l'expression stupide, sur ses deux oreilles. On ne peut pas dormir sur ses deux oreilles, c'est impossible. Il dort sur une oreille. Et elle en profite pour insérer dans l'oreille visible un piquet de métal, et avec un marteau, elle enfonce le piquet dans l'oreille jusqu'au sol. Et il reste planté, donc il a traversé le crâne, il a traversé entièrement la tête. Et cette représentation, au-dessus de la représentation de la Vierge, dont on connaît les qualités de paix et d'intervention pour la paix, m'avait énormément marqué. Voilà. Vous pourrez les retrouver également sur le flyer. Bien que...
Et ben, ça sera la suite de l'histoire. Et il faut suivre la série de conférences, en l'occurrence celle-là. Ça sera le 18 décembre prochain. Et ben, merci beaucoup d'être venu participer à cette émission Vivante Église pour nous faire cette promenade dans les Écritures et nous parler de ces femmes. Je rappelle le titre de votre série de conférences Femmes dans la Bible et dans l'art. C'est donc un samedi par mois, c'est de 10h à 12h, suivi d'un repas partagé. Le lieu, c'est donc à la communauté Notre-Dame du Calvaire, 7 rue Pérolade, 31300 Toulouse. Si vous n'avez pas eu le temps de noter, vous appelez le standard de la radio. On se fera un plaisir de vous donner plus d'informations. Vous retrouverez tout ça sur notre site internet. La prochaine rencontre est donc le 27 novembre prochain, samedi à part à 10h, et ça sera donc sur Judith et Holoferne. Un grand merci à vous.
Merci.
À la technique, Christophe Aubry, vous pourrez écouter cette émission ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Et je vous invite à appeler et à soutenir la radio. Pour rappel, c'est notre radio don sur le thème Écoutons-nous. On prend le temps cette année spécialement de vous écouter. On a plein de questions à vous poser sur ce que vous pensez de la radio, sur l'importance pour vous de sa dimension locale et régionale. Appelez-nous, il y a du monde au standard. On a besoin de ce temps privilégié avec vous. Et puis évidemment, on a besoin de vos dons. Un seul numéro de téléphone, 05 62 48 63 00 05 62 48 63 00. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00, 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.